message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net
Ce matin, ce message sera un message d'encouragement. Quel enfant de Dieu n'a pas besoin d'être encouragé dans sa marche? J'entends dans mon entourage parfois cette réflexion, entourage professionnel qui me dit ceci, des gens sont bons et ils n'ont rien, et les méchants, eux, prospèrent à tous égards. Ils ne méritent pas. Et le lot du croyant, c'est de marcher dans la confiance avec Dieu. Son lot, c'est contre toutes les épreuves qui peuvent se tenir devant lui. C'est garder la main du Seigneur dans sa main. Et par vent et marée, dire au Seigneur, je te fais confiance, Seigneur. Tu vas avoir des moments dans ta vie où tu vas être dans la prospérité. Tu vas avoir des moments dans ta vie où tu vas être dans la disette. Tu vas avoir des moments dans ta vie où tu vas être dans la réjouissance et des moments dans ta vie où tu vas être dans la tristesse. Mais la véritable grâce, c'est que dans chaque moment, chaque instant, chaque respiration, chaque battement de ton cœur, quelle que soit la situation que tu vis, toujours, dans la confiance avec le Seigneur. Tu es précieux comme la prunelle de ses yeux. Même le prophète Jérémie, à un moment donné, va dire ceci, je t'ai aimé d'un amour éternel. Jésus, dans une parabole, dira, mais ne savez-vous pas que les oiseaux des cieux ne sèment ni ne moissonnent? De quoi allez-vous manquer? Est-ce qu'il te manque quelque chose dans ta vie? Il ne te manque rien de ce dont tu as besoin. Et tous ceux qui te manquent, ce ne sont que des envies. Et nous savons que l'envie, elle est de la chair, n'est-ce pas? Et que l'envie, elle est inimitié contre Dieu. Alors, lorsque tu passes dans l'épreuve, enfin que toi, finalement, tu considères comme une épreuve, mais que le Seigneur dit, mais c'est normal en fait. Tu considères l'épreuve parce que ça touche à ta chair et au plaisir dans lequel elle veut tirer sa satisfaction. Mais Jésus est juste. Le Seigneur est fidèle. Et lorsqu'il dit par la bouche de Paul, mon Dieu dans sa grâce, pourvoira à tous vos besoins. Pas vos envies, vos besoins. Nous devons prendre cette parole et nous en saisir par le moyen de la foi. Et même si le temps d'attente dans lequel il te semble être long, ben la parole déclare que si la promesse tarde, attends-la. Car elle viendra certainement. Comme la parole de Dieu parle, comme la parole de Dieu fait son effet dans l'actualité, comme la parole de Dieu fait son effet dans la géopolitique, comme la parole de Dieu a fait parler par la bouche des prophètes de la venue de Jésus, de sa crucifixion, de ses souffrances, de sa résurrection et de son retour. La parole de Dieu fait son chemin. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te trouver sur ce chemin. Ne pas faire confiance à tes propres capacités. À dire, si j'ai gagné de l'argent, c'est par mes sacrifices, on va voir ces choses, c'est par mon travail, c'est par... Non. Si tu as gagné de l'argent, c'est que Dieu a bien voulu déclencher l'action pour que tu aies ton salaire, ou pour que tu aies ton travail, ou pour que tu aies un chantier, ou pour que... Je vais vous dire quelque chose, un petit témoignage. On était en train de la reprise au niveau du travail. Nous avions puisé dans les caisses de l'entreprise pour nourrir les salariés. Et les caisses étaient en train de s'amenuiser. Et il me restait peut-être 5 euros sur le compte de l'entreprise. Mais tout ça était un piège de l'ennemi pour que je perde foi, que je puisse trouver des moyens détournés d'aller chercher de l'argent à droite et à gauche. Sauf que j'ai attendu. Et j'ai dit, Seigneur, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que toi, tu as voulu que je sois là. Mon travail, il n'est rien sans que toi, tu le bénisses. Alors Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Et voici un miracle se produit. Une personne avec sa femme rentre dans le magasin et me disent, voilà, on voudrait acheter ce spa que tu as là en stock qui valait une certaine somme d'argent et qui m'a permis de rebondir. Ça a renfloué le compte de l'entreprise et puis ensuite les choses se sont enchaînées pour que le compte de l'entreprise grandisse. Pas pour que je me serve, mais pour que l'entreprise fonctionne. Voyez, de nulle part, quelqu'un pousse la porte. Et voici que la chose, le miracle, arrive. La seule confiance en Dieu, la seule marche véritable dans le Seigneur, c'est d'avoir confiance dans toutes les circonstances. J'aurais pu dire comment je vais faire, Non, Seigneur, je te fais confiance. À toi, je fais confiance. Et à seulement toi, je fais confiance. Je sais pas. Alors, bien sûr, hein. Bien sûr, on a fait de la pub, bien sûr, on a agi aussi. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, la vision, eh ben, il faut qu'à un moment donné, tu trouves les vecteurs pour... Bien sûr, ça, c'est ton travail de chef d'entreprise. Mais je vais te dire quelque chose, Dieu s'en moque. Parce que lui, il fait venir n'importe qui dans ta maison. Au même titre qu'il peut faire venir quelqu'un dans ta maison avec un panier rempli de nourriture, comme j'ai vu l'autre jour, voilà, un SDF sur une vidéo où quelqu'un lui apporte un colis et à l'intérieur, il y avait de la nourriture. Et pourtant, cet homme-là, il ne connaît peut-être pas le Seigneur. Mais Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et notre rôle devant Dieu, c'est d'être toujours en action de grâce pour ces choses. Toujours avoir qu'un cœur qui va remercier le Seigneur. Toujours dans cette démarche d'être toujours redevable à Dieu. Et on a tendance à l'oublier. Il est facile aujourd'hui de se dire, mais c'est par mes propres forces, c'est par mes propres actions, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai abandonné, parce que... Non, non. Parce que si tu existes, c'est par la grâce de Dieu. Alors voici un verset qui m'a interpellé dans l'Écriture et a interpellé plus d'un. Et ce verset dit ceci, Luc 16, verset 9. Ce verset s'inscrit dans une parabole. Mais c'est ce verset qui m'a interpellé. Et moi, je vous dis, dira Jésus, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous viendrez à manquer, afin que vous viendrez en manquer, vous soyez reçus dans des tabernacles éternels. Si nous partons du principe établi en Genèse, Genèse 3, versets 17 à 19. Et à Adam, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, « Tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi, tu mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces, tu mangeras l'herbe des champs, à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Alors ce verset, pour un incroyant, lorsqu'il va lire la Bible, il va dire ceci. Qu'est-ce qu'il est dur ce Dieu ? Travailler à la sueur de mon front et pourtant le fruit ne portera pas son fruit. Il va y avoir des ronces. Tu vas manger l'herbe des champs. À la sueur du visage, tu mangeras ton pain. Jusqu'à ce que tu retournes au sol, c'est donc ça ma vie sur terre. Travailler, naître, grandir, travailler, mourir. Quelle belle vie! Et le diable s'en sert, n'est-ce pas? Puisqu'à côté de ça, il a créé tout ce qui va être les distractions, le spectacle, toutes ces choses qui vont pouvoir sortir l'incroyant, l'injuste, l'impie. Il va le sortir de ce cadre-là et il va lui faire croire qu'en fait la vie, c'est l'amusement. C'est toutes ces choses. Et je comprends que l'incroyant puisse plonger dans toutes ces choses. Parce que la vie que nous menons, si elle n'est pas dans le Seigneur, elle est harassante. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, tu à quoi bon vivre ? Alors notre vie sur terre sans Dieu est une condamnation. Hérité de nos parents Adam et Ève. Ainsi, sans Dieu, le travail fourni pour vivre est un dur labeur qui ne porte bien souvent pas de fruits exquis dans lesquels nous pouvons nous rassasier. Le travail n'est pas un plaisir dans le monde, c'est une condamnation. Je suis condamné à travailler pour vivre. Le travail produit est considéré comme une charge lourde à porter, surtout lorsque nous voyons ce qui se passe dans ce monde, notamment sur ses principes de vie économique fondés sur la puissance de Babylone, qui est l'asservissement de l'homme par l'homme. Parce que tu vas commencer à travailler, mais tu vas avoir quelqu'un au-dessus qui va te demander de travailler, et si tu ne travailles pas bien, il va te rajouter du fardeau dessus, à la manière que faisait Pharaon pour les Hébreux, lorsqu'il travaillait pour eux. Il va rajouter des charges de travail sur toi. Mais ce qu'on oublie de dire, et ce qu'on oublie de remarquer, bien souvent, c'est qu'à l'origine de la création et dans la pensée de Dieu, il n'en était pas ainsi. Puisque nous voyons clairement que Dieu créa l'ensemble de la création pour que l'être humain puisse en jouir gratuitement et sous le regard bienveillant de la bénédiction de Dieu, car ce n'est seulement qu'après la création que de l'être humain, ce n'est seulement après la création de l'être humain qu'il nous est dit ceci, en Genèse 2, versets 5 à 6, « Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, car il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol, mais une vapeur montée de la terre et arrosait la surface du sol. » Dieu avait préparé les arbres, avait préparé les animaux, avait préparé toutes ces choses, mais pour que toutes ces choses puissent prendre vie, il fallait qu'il y ait la pluie, et la pluie n'est pas tombée avant que l'être humain ne fût créé. Ce qui confirme que toute la création a été faite pour un but précis, c'est-à-dire la vie de l'être humain. Ainsi donc, lorsque l'être humain fut chassé de l'Éden, nous savons en tant que croyants que l'accès à la bénédiction de la vie dans le jardin d'Éden que Dieu voulait nous accorder fut fermé pendant des siècles jusqu'à ce que Jésus vienne en sa personne rétablir l'accès à cette compréhension. Nous voyons ceci en Genèse 3, versets 23 à 24, « Et l'Éternel Dieu mit l'homme, l'être humain, en dehors du jardin pour labourer le sol d'où il avait pris. Il chassa l'homme, le plaça à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins et la lame d'épée qui tournoyait çà et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Lorsque Jésus va venir, il va réparer cette brisure du monde. La brisure du monde dans lequel Dieu souffrait. Parce que le fait que le travail soit harassant, le travail soit quelque chose qui ne portait pas de fruit pour l'homme, Dieu a vu cette chose apparaître, l'asservissement de l'homme par l'homme. Et il fallait que Dieu envoie son Fils sur la croix, afin de réparer cette chose. Afin que désormais, l'homme ne vive plus sur le principe de son effort de travail, mais dans la foi en celui qu'il est béni. Et Jésus a déclaré que tout était accompli en rendant son souffle à la croix. Quand il a dit « tout est accompli », c'est-à-dire « Père ». La chose brisée originelle dans l'Éden a été réparée. C'est ce que les Juifs appellent le tikkun olam. Jean 19, 29 nous dit ceci. Il y avait donc là un vase plein de vinaigre. Ils remplirent de vinaigre une éponge et l'ayant mise sur l'hysope, ils lui présentèrent à la bouche. Et quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit « C'est accompli ». Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. En effet, l'offrande de sa vie en odeur agréable au Père nous permet désormais par la foi d'avoir accès à nouveau à cet arbre de vie. Cet arbre de vie pour le croyant en Yeshua permet d'appréhender désormais la vie sur terre comme étant nouvelle, car de lui, de Yeshua, procèdent des fruits, les fruits exquis de la grâce. Tout est grâce. Ta vie est grâce, ta respiration est grâce, ta vue est grâce, ton ouïe est grâce, ton goût est grâce. Tout ce que tu vis, tout ce que tu es, c'est grâce. Et Paul l'avait compris, car il dit ceci, 1 Corinthiens 15, verset 10, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, j'ai travaillé beaucoup plus que, non pas toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Nous devons savoir, dans la grâce de Dieu, être dans l'abondance et être dans la disette, et pour toutes ces choses, rendre toujours gloire à Dieu. Toujours rendre grâce à Dieu, quelques moments que tu passes. Paul dira ceci aux Philippiens, « Je sais être rassasié. Je sais être aussi dans l'abondance. » En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien en être dans l'abondance que dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie, je peux toutes choses en celui qui me fortifie. Nous devons savoir être dans l'abondance et dans la disette, dans la force et dans la faiblesse, dans la joie et dans la tristesse, c'est la véritable liberté. Quand tu en arrives là, c'est que tu es libre à l'égard de ce monde qui t'avait asservi. Le croyant en Yeshua ne se pose plus ses yeux ne pose plus ses yeux sur la pénibilité du travail, mais considère tout ce qu'il vit comme étant désormais une grâce, une bénédiction dans laquelle Yeshua est mis à la première place et désormais tout devient grâce. Il est évident que l'homme a toujours à faire sa part, et sa part, c'est la confiance en Jésus-Christ, mais aussi dans le quotidien, et d'ailleurs la Torah elle-même nous enseigne ceci. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du Shabbat, pour le sanctifier, car 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e est un jour de Shabbat consacré à l'Éternel. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Il y avait donc bien un temps dans lequel l'Éternel agissait pour son peuple. Le 7e jour, le peuple devait se reposer de toute son œuvre pour qu'il puisse voir la main de l'Éternel les bénir. Oui, un temps sanctifié, un temps mis à part pour l'Éternel dans lequel l'Éternel parlait et parle encore aujourd'hui à son peuple. Pour nous, les croyants en Jésus-Christ, Yeshua, nous avons compris en dehors du fait que ce jour est un jour de réjouissance exclusivement réservée à son peuple. Comme toutes les autres fêtes données à Israël, d'ailleurs, la portée prophétique accomplie est bien plus grande. Car en effet, si pour Israël, un jour de repos fut institué par semaine pour qu'il soit béni dans cette journée, Yeshua est venu instituer un Shabbat de repos quotidien. Que cela soit pour nous, pour tous nos besoins, qu'ils soient financiers, qu'ils soient de la santé, du manger, du boire, du gîte et du couvert, mais aussi tout ce qui peut incomber à nos vies, désormais tout est grâce et devient un sujet de louange et notre relation avec Dieu se renforce dans la confiance et la relation avec le Seigneur grandit. Quand tu vois Dieu agir dans ta maison et dans ta main, alors la relation de cœur à cœur avec le Seigneur, il devient ton ami. Pas ton pote, mais ton ami. Et l'ami aime en tout temps, n'est-ce pas? Dans les bons et dans les mauvais moments. Plus tu marches avec le Seigneur, selon la confiance que tu vas lui accorder, plus la relation avec lui va grandir. Elle va se fortifier, elle va se solidifier parce que tu vas voir que tu ne manques de rien. Et Paul dira ceci, Philippiens 4, 19, un verset que nous connaissons tous, que nous disons tous. Mais est-ce que nous le vivons? Mais mon Dieu suppléera à tous vos besoins selon les richesses en gloire par le Christ Jésus. Tous vos besoins. Carburant, électricité, tout ce qui peut toucher à ta vie, ne t'inquiète pas. Le Seigneur a déjà pourvu à ces choses. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans son plan. Tu es dans le fleuve de sa parole vivante et il va te conduire jusqu'au tabernacle éternel. Par conséquent, et pour nous, nous travaillons chaque jour, mais nous sommes également chaque jour dans le repos de notre Seigneur ayant été éclairé sur la grandeur de son règne. D'ailleurs, Jésus va le dire, et il leur dit en Marc 2, 27 à 28, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le Shabbat. De sorte que le Fils de l'homme est Seigneur aussi du Shabbat. Le Shabbat a été fait pour l'homme. Jésus a fait inaugurer un Shabbat quotidien pour toi, pour que tu puisses te reposer en lui. Bien sûr que tu fais ta part, mais ce qui manque à ta part, le Seigneur pourvoira à ce qui manque à ta part. Il n'en demeure pas moins que nous devons, pour des raisons physiologiques, des raisons sociales, avoir un repos physique chaque semaine afin de permettre au corps de se régénérer. Mais ça, ce n'est encore un autre sujet. Le terme « richesse injuste » employé dans Luc 16, verset 9 signifie littéralement « ce qui provient de mammon ». Ça vient en opposition aux valeurs de ce monde qui dit « c'est parce que j'ai travaillé dur » parce que je mérite, parce que c'est moi qui ai fait ça, donc c'est juste que je reçoive ces richesses. Mais Jésus, lui, ne dit pas cela. Il vous dit, faites-vous amis avec les richesses injustes, et en fait, il dit, soyez reconnaissants, aimez de la grâce qui vous est accordé dans les richesses que vous obtenez, et dans ce cas de figure seulement, lorsque vous en manquerez, vous ne ferez de rien, car votre Père qui est aux cieux s'occupera lui-même de vous. Vous serez reçus dans des tabernacles éternels dans lesquels, bien sûr, rien ne manque. Ainsi, Jésus nous commande et dit « Rendez donc à César ce qui appartient à César et rendez donc à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Qu'est-ce qui appartient à Dieu ? Toute chose. Et la foi qu'il a déposée en toi. Et quand tu fais confiance en Dieu, tu es en train de rendre ce qu'il t'a donné. Il dit ceci, Matthieu 6, 32, verset 34. « Car les nations recherchent toutes ces choses, mais votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses vous seront données par-dessus. » Ne soyons pas donc en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il est facile de retomber dans notre génération, d'être tenté de dire que ce que je le gagne parce que je travaille, par mes propres efforts, mes propres sacrifices. Mais ce genre de pensées sont en piège, car elles s'élèvent même contre la pensée de Dieu. Matthieu 6, versets 25 à 34, lui dit ceci. Il vous dit ceci. Et Jésus te parle ce matin. Et il va te dire ceci. Ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, ou de ce que vous boirez, ou de ce que, ou pour votre corps, ou pour de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez aux oiseaux des cieux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'assemblent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par le souci qui se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous souci du vêtement? Étudiez donc les lys des champs. Comment ils croissent? Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci, disant « Que mangerons-nous ? » Ou « Que boirons-nous ? » Ou « De quoi serons-nous vêtus ?» Car les nations recherchent ces choses. Mais votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et il reprend « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ayant donc cette ferme espérance comme ancre de l'âme, avançons avec confiance dans ce que le Seigneur nous demande. Et l'Ecclésiaste, à son chapitre 3, va nous expliquer qu'il y a des temps dans la vie que nous menons. Il y a des temps. Et les temps que nous vivons, c'est ceci. L'Ecclésiaste au chapitre 3 dit ceci. Il y a une saison pour tout, un temps pour toute affaire sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps de planter, un temps d'arracher ce qui est planté, un temps de tuer, un temps de guérir, un temps de démolir, un temps de bâtir, un temps de pleurer, un temps de rire, un temps de se lamenter, un temps de sauter de joie, un temps de jeter des pierres, un temps d'amasser les pierres, un temps d'embrasser, un temps de s'éloigner des embrassements, un temps de chercher, un temps de perdre, un temps de garder, un temps de jeter, un temps de déchirer, un temps de coudre, un temps de se taire, un temps de parler, un temps d'aimer, un temps de haïr, un temps de guerre, un temps de paix. Peut-être que pour toi, qui passe par l'épreuve, c'est le temps de chercher, peut-être. Peut-être c'est le temps de chercher le Seigneur. Peut-être c'est le temps de se reposer. Peut-être c'est le temps. Mais dans chaque temps, Dieu te dit, ne sois pas en souci pour ton lendemain. Ecclésiaste dit ceci encore. Celui qui agit, quel profit a-t-il à celui qui travaille, à ce à quoi il travaille, pardon. J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux fils des hommes pour s'y fatiguer. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a mis la pensée de l'éternité dans leur cœur, de sorte que l'homme ne peut la comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin. L'œuvre de Dieu a faite. J'ai connu qu'il n'y a rien de bon pour eux, sauf de se réjouir et de se faire du bien pendant leur vie, et aussi que tout homme mange et boive et jouisse du bien-être dans tout son travail. C'est cela grâce à leurs efforts ? Non, c'est cela un don de Dieu. J'ai connu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Dieu le fait afin que devant lui, on craigne. Ce qui a déjà été fait, ce qui est à venir et ce qui est arrivé, Dieu ramène. Pardon. Et Dieu ramène ce qui est déjà passé. J'ai encore vu sous le soleil que le lieu du juge, que dans le lieu du jugement, là il y avait la méchanceté. Et quand le lieu de la justice, là aussi il y avait la méchanceté, j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute affaire et un temps pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, quant au fils des hommes, il en est saisi, il en est ainsi, pour que Dieu les éprouve et qu'ils voient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Car ce qui arrive au fils des hommes est aussi arrivé aux bêtes. Il y a pour tous un même sort, comme celle-ci meurt, ainsi meurt celui-là. Et tous ont même souffle, et l'homme n'a point d'avantage sur la bête, car tout est vanité. Tout va dans le même lieu, tout est poussière, tout retourne à la poussière. Qui est-ce qui connaît le fils ? Qu'est-ce qui connaît l'esprit des fils des hommes ? Celui-ci monte-t-il en haut, et l'esprit de la bête descend-il en bas dans la terre ? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux que ceci, que l'homme se réjouisse dans ce qu'il fait, car c'est là sa part, car qui l'amènera pour voir ce qui sera après lui. Écoute, tu vas t'harasser à avoir un travail, à vouloir gagner la gloire des hommes, mais au bout, tu n'es que poussière. Tous les efforts que tu vas faire, les sacrifices dans ta famille, de partir de droite et de gauche à l'étranger, de faire de l'export, de faire des choses où tu vas te retrouver à gagner, certes, peut-être, beaucoup d'argent qu'il va falloir que tu apprennes à gérer parce que sinon, tu vas te retrouver à la rue. Tout ce que ce monde peut t'expliquer en te disant que les postes de travail aujourd'hui ont plus d'importance que ta famille. Tout ça, tu vas arriver à la fin de ta vie, comme j'en ai rencontré encore aujourd'hui, et qui me disent ceci, des gens qui sont à la retraite, et qui me disent, tu sais, Julien, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai pas vu ma femme, j'ai pas vu mes enfants, je les ai pas vus grandir, j'étais toujours à droite, toujours de gauche, j'ai gagné de l'argent, mais regarde encore aujourd'hui, je suis obligé de travailler, parce que l'argent que j'ai gagné, j'en ai pas assez pour subvenir à mes besoins. Et alors que tout ça n'est que vanité. Tandis que la position de l'enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur, puisqu'il est toujours en train de rendre gloire à Dieu en disant merci Seigneur pour toutes ces choses. Et le Seigneur pourvoit à tous tes besoins. Qu'est-ce que tu te casses la tête? Bien sûr, tu raisonnes, tu dis, tu vois, nous on a 8 enfants avec mon épouse, et on se dit, on faudrait peut-être, je me dis, il faudrait peut-être leur laisser quelque chose, un héritage, une maison, peut-être quelque chose, peut-être construire quelque chose. Mais ça, c'est ma chair qui raisonne, car je sais que si je ferme les yeux sur cette terre, le Seigneur continuera l'œuvre avec mes enfants, et c'est lui à nouveau qui prendra le relais, parce que lui est éternel, n'est-ce pas? Et c'est lui qui pourvoira à tous leurs besoins. Car avant d'être mes enfants, ce sont ses enfants. Notre rôle, c'est pas tant de leur construire un héritage sur cette terre. Notre rôle, c'est de leur construire un héritage spirituel. Un tremblement de terre, tu perds tout. Une inondation, tu perds tout. Et après, tu pleures. Parce que ton assurance ne veut pas te rembourser. Eh oui. Pourtant, tu avais pris la meilleure. Et ils ont su te prendre l'argent. Mais ils ne veulent pas te dire parce que tu n'es pas en état de catastrophe naturelle. Il n'y avait pas assez de maisons inondées. Pourtant, tu as tout perdu. D'ailleurs, vous savez, l'Écriture déclare que nous sommes des Lévites. Et les Lévites, ils n'avaient pas d'endroit où vivre. Ils n'avaient pas d'héritage, pas de part dans cette terre. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel était leur héritage, leur part particulière. Alors ce matin, si tu passes par le désert, souviens-toi même que dans la traversée du désert, Israël n'a manqué de rien, ni de nourriture, ni de gîte, ni de couvert, ni d'un lieu pour la présence de Dieu, ni d'eau, ni de rien du tout. Mais par contre, à chaque fois que le peuple commençait à murmurer contre Dieu, le plan de Dieu était retardé pour eux. Aussi, toi qui marches par la foi avec Dieu, lève-toi, prends autorité dans le nom du Seigneur pour proclamer et te souvenir de sa fidélité, de son amour envers toi, de la prunelle de ses yeux que tu es. Souviens-toi qu'il t'a donné sa vie pour que toi, tu puisses vivre et que ton sang t'a racheté. Que son sang t'a racheté, pardon. Ne crains pas. Aie foi en l'Éternel ton Dieu qui te délivre du pays de la servitude. Ne te laisse pas détourner du pays de la promesse où coule le lait et le miel en abondance que l'Éternel veut t'accorder. Ne crains pas des ennemis qui sont devant toi, car Yeshua nous a donné la puissance de marcher sur tous les serpents et sur tous les scorpions et sur toutes les autorités qui peuvent se présenter devant toi. Peut-être ne sais-tu pas ce que tu dois faire pendant ce temps de désert. Alors laisse-moi te dire ce matin que seul le torrent du fleuve de vie te fera entrer dans le tabernacle éternel. Le tabernacle éternel est celui où Jésus-Christ règne, dans lequel sa grâce coule et dans lequel il ne manque aucune des richesses, celle de la bénédiction sur nos vies. Laisse-toi conduire par lui et par lui seul. Ne murmure pas comme le firent les fils d'Israël, mais accepte que Jésus-Christ te fasse justice au temps opportun. Laisse-toi conduire par le fleuve d'eau vive qui jaillit de son trône. Tu es dans le désert. Dans le désert, en Israël, il y a des fleuves à sec. Et parce qu'il y a une pluie qui va tomber à des kilomètres de là, ce fleuve va se remplir en l'espace de quelques minutes. Et toi, il faut que tu te trouves dans ce milieu-là pour que le Seigneur puisse te conduire jusqu'au but qui est le royaume de Dieu. Et c'est seulement dans cette condition que tu pourras vivre la gloire de Dieu sur la terre. La confiance, la émouna en Dieu. Et combien de chrétiens aujourd'hui, combien de chrétiens croient que c'est parce qu'ils ont des richesses sur cette terre qu'ils sont heureux. Ils ont remplacé Dieu par mammon. Combien se disputent, combien se déchirent dans les familles lorsqu'il y a un décès et qu'il faut rétribuer l'héritage. Pourtant chrétiens, pourtant même certains font même des catéchèses. Pourtant même enseignent la parole de Dieu aux enfants. Mais ils ne vivent rien de ce qu'ils disent et de ce qu'ils enseignent. Un autre aspect, c'est ton service. L'appel que Dieu a mis sur ta vie pour le servir ne pourra s'accomplir qu'une fois que tu vivras pleinement dans la grâce de Dieu, pleinement dans la confiance en Dieu, pleinement conduit par Dieu. Parce que l'appel... Parce que ton service ne va pas être un service où tu vas être sur un fleuve long et tranquille. Ça va être semé d'embûches, semé d'épreuves, semé de difficultés, semé... Mais parce que tu auras expérimenté la confiance en Dieu et que tu seras sur le bateau que Jésus est en train de conduire et qu'il calme les flots de la mer... Parce que tu seras sur ce bateau, alors tu seras capable de servir réellement Dieu. Parce que si demain le Seigneur te dit, lève-toi, quitte ton travail, pars. Laisse tes enfants, ta femme. Pas ta femme, parce qu'il faut qu'on serve ensemble. Mais laisse tes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire, et mon travail, et ma maison, et ma voiture, et mon chien, et mon chat, et mon lapin, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Jésus dira ceci à ses disciples quand ils reviendront. Quand il va envoyer ses disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ils vont revenir, ils vont leur dire ceci. Avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué de quelque chose? Non, rien, Seigneur. Dieu était en train de leur montrer que sa main était tendue et qu'il n'avait besoin de rien si ce n'est de la grâce de Dieu. Alors, toi qui entends ça, rentre pleinement dans ton appel. Marche avec le Seigneur, lève les yeux vers celui qui est le rémunérateur de ta foi. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi et rappelle-lui sa fin. Ésaïe le prophète, à son chapitre 54 et son verset 10, dirait ceci. Car, il y a d'ailleurs un petit chant comme ça, si les montagnes se retiraient, si les collines seraient ébranlées, ma bonté ne se retirerait point de toi, et mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Voilà. Le Seigneur veut nous apprendre à marcher pleinement dans sa confiance. Tu ne peux pas vivre si tu n'es pas dépendant du Seigneur. Enfin, tu ne peux pas vivre dans la volonté de Dieu si tu n'es pas dépendant de lui. Bien sûr qu'on a tous notre instinct être humain qui est là et qui vient mettre sa graine. Et Dieu ne nous en veut pas pour ça. Au contraire, il a compassion de nous. Au contraire, il pourvoit à tous nos besoins. Voilà. Voilà, soyez bénis, vous qui entendez ces paroles ce matin. Et que le Dieu de grâce puisse vraiment nous faire comprendre que nous sommes dans ses mains et des instruments utiles pour le corps et pour l'avancement de son royaume sur la terre.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net